Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man wala ila yumiddin wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka anta al-alimul hakim. Rabbi zidna ilma ya kareem, Rabbi zidna ilma ya kareem, Rabbi zidna ilma ya kareem. Rabbi shahli sadri, wa yassir li amri, wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Mes chers frères, toute louange, gouverne Allah Rabbul Izzah, qui nous réunit ce soir dans le mois de Rajab, mois sacré, pour 15 minutes, 20 minutes d'étude de ce nom d'Allah, Ash-Shafi, celui qui donne la santé. Le dernier hadith, le dernier récit qu'on avait vu ensemble, on l'avait un peu bâclé, mais au moins on a compris l'essentiel du message, c'est que le Sahaba savait que la sourate Al-Fatiha est une sourate de Shifa. Et il l'avait lu sur quelqu'un qui était atteint d'empoisonnement. Quelqu'un qui avait été empoisonné par le venin d'un scorpion serpent. Et ce qu'on a vu concrètement, c'est que la lecture du Coran est un remède. Bien sûr, contre les maux spirituels, ça on a bien compris. Mais également contre une maladie physique, un mal physiologique, quelque chose de réel. Ça peut être quelque chose qui est dans ton sang. Ça peut être quelque chose qui est sous ta peau ou autre chose, c'est-à-dire un mal qui est concret, qui est réel, qui peut être diagnostiqué par un médecin. Le Coran peut avoir, le Coran a un effet sur ce problème à partir du moment où la personne qui lit le Coran a un certain niveau de piété et que la personne a une conviction inébranlable et illimitée sur la puissance de Kalamullah. Donc voilà le dernier point qu'on avait vu. L'auteur a, avec ce récit, développé les différents points qu'il avait prévu de faire pour le nom d'Allah, Ash-Shafi. Et comme il le fait, comme on l'a vu depuis le début, à la fin de chaque nom d'Allah, il y a un récapitulatif des grandes leçons à retenir de ce nom d'Allah, Ash-Shafi. Yaqulu rahimahullah, al-fa'idatul maslakiyatu min al-iman bi sifati shifa, les leçons de foi à retenir concernant l'étude du nom d'Allah, Ash-Shafi. Anna Allah Ta'ala huwa Ash-Shafi. Premier point, c'est ce qu'on avait vu en introduction. Allah Rabbul Izza, c'est le seul qui peut donner la santé. Wa la Ash-Shafi illa illahu. C'est le seul qui peut donner la santé. Et wa la yarfa'ul marada illahu. C'est le seul qui peut enlever une maladie, une difficulté, de façon plus globale, une épreuve. Il y a un hadith, un dua. Nabawi, il est important quand on veut se soigner ou on rend visite à un malade, bien sûr on fait doigt pour lui avec nos mots, nos formulations, notre sincérité, notre envie, notre bienveillance, mais il faut quand même revenir vers les doigts prophétiques. On appelle les doigts masnoun, d'accord, c'est l'enseignement de notre prophète alayhi salatu wassalam, parce que les mots que le prophète alayhi salatu wassalam ont utilisés sont inspirés par Allah. Qui me cite le dalil? Qui me cite le verset qui prouve? Allah, j'ai pas entendu le début. Il faut le début. Qui prouve que le prophète ne disait rien. Eh ouais. Les points hafez savent remonter les versets. Ça c'est très compliqué. C'est-à-dire le sens du verset, le prophète ne parlait jamais de lui-même. In huwa illa wahyun yuha, ce n'est qu'une révélation. Enfin, tout est révélation qui vient d'Allah Azza wa Jalla. Ainsi, le Coran est wahi, ça c'est très clair. Mais ce que le prophète alayhi salatu wassalam, Allahumma rabban nas. Et je pense que Cheikh Bilal peut nous le mettre par écrit. Allahumma rabban nas, adhib il ba's, washfihi, wa anta shafi, la shifa'a illa, shifa'uk, shifa'a la yugadiru, saqma. On avait commenté ça, hein? Oui, il me semble qu'en introduction, on avait rappelé ce doua, le hadith, le doua, est rapporté Imam Bukhari et Muslim. Là, on a la crème des crèmes. On a, comment s'appelle le hadith rapporté par Bukhari et Muslim? Muttafaqun alayh. Hadith pour lequel il y a ittifaq, il y a l'accord des deux grands narrateurs de hadith qui étaient Al-Bukhari et Muslim. Donc, le hadith qu'on avait déjà, on ne va pas revoir point par point, hadith dans lequel le Prophète sallam invoque Allahumma bima'na ya Allah, Seigneur des annas, Seigneur des gens, enlève, éloigne la maladie, accorde-lui, c'est-à-dire que là, le Prophète fait doigt pour quelqu'un, de présent. La santé, car il ne peut y avoir de santé si ce n'est celle qui provient de toi. Parce que c'est Allah qui est Ash-Shafi, et une santé qui est parfaite, une santé qui est Kamila, pour laquelle il ne reste aucune trace de la maladie. Alors bien sûr, je peux le dire avec mes propres mots, mais important de garder les alfaz, les termes de notre prophète alayhi salat wa salam, parce que je le répète, c'est dans les mots du prophète alayhi salat wa salam qu'il y a une baraka, et ce sont les termes les plus acceptés par Allah azza wa jalla. D'accord? Je fais une énième parenthèse. Il y a des gens, des grands savants, des savants qui ont rédigé des livres de salat ala nabi, qu'on dit localement des livres de durud sharif. Donc ce sont de belles phrases, hein. C'est Wallah, on voit les salutations sur le prophète sallam, autant de salutations qu'il y a de grains de sable dans les dunes, de sable, mashallah, c'est très beau, poétique et tout, c'est magnifique. Mais aucune de ces salutations n'arrivera à la cheville de Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim annaka hamidun majid, et le deuxième avec Allahumma barik. C'est ce que nous lisons dans la salat. C'est l'enseignement de notre prophète Mohammed Mustafa, alayhi afdalu salat wa atamu taslim. Les mots, les termes utilisés par le prophète sallam, c'est rempli de lumière. De même que les doigts de l'istighfar, bien sûr, on a le seuil de l'istighfar. C'est vrai que je le répète un peu souvent, le même jour, mais c'est important de le dire. Quel est le doigt par excellence qu'on lit en clôture en la salat et qu'on peut lire tout le temps aussi? C'est quoi? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa ant. C'est le doua que le prophète a enseigné à qui? A enseigné à Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu. Il n'y a pas mieux que ça. Et ça, on peut le lire, mashallah, tout le temps. C'est la meilleure formulation pour demander le pardon à notre Seigneur, azza wa jal, hada. Et le cheikh ensuite explique qu'il faut savoir que quand un homme, un médecin te soigne, ce n'est qu'un intermédiaire, c'est pas lui qui donne la santé, d'accord? C'est-à-dire que, on va un peu vite, la conviction ne doit en aucun cas être sur le cardiologue, le chirurgien, d'accord? C'est pas parce que il a fait des études aux États-Unis, il a tel dit. Le shifa, c'est de les mains d'Allah, d'accord? Et le remède également, ce n'est qu'un sabab, un intermédiaire. Et Cheikh explique que, c'est bien comme il dit, وَلِهَذَا يَمْرَضُ رَجُلَانِ بِمَرَضٍ وَاحِدٍ. Il se peut que deux personnes, deux frères, on va dire, sont malades, ils sont atteints du même virus. Et pour un des deux, un médicament marche, fait l'effet. Et pour l'autre, ça ne marche pas, ça arrive, ça. Après, certains vont dire, oui, parce que notre métabolisme n'est pas pareil, tout, accepte certaines molécules. Oui, bien sûr, on aura toujours quelque chose à redire. Mais Allah a décidé que lui trouve le shifa par cet intermédiaire et lui ne trouve pas le shifa par cet intermédiaire. D'accord? Donc, conviction que c'est Allah qui donne la santé. Deuxième point. وَنَحْنُ مَأْمُورُونَ بِذَلِكَ السَّبَبِ. Et c'est toute la cohérence et le juste milieu de notre religion. Allah nous demande de prendre des médicaments. Allah nous demande de nous soigner. Le prophète alayhi salat wa salam a dit fatadawaw wa la tatadawaw bi haram. Tatadawaw. Compliqué comme verbe, hein? On est sur quel chemin, la Hudhayfa? On est sur du tafa'ala, yatafa'alu. Donc le prophète salam a dit soignez-vous, utilisez des traitements. On connaît le mot dawa. En urdu aussi, on utilise dawa, d'accord? Mais bien sûr, ne vous soignez pas avec des choses qui sont haram. Hada. Troisième point, donc ça c'est un point important concernant la cohérence de notre religion et le juste milieu. Quelqu'un est malade, il oriente ses doigts vers Allah et il va vers l'intermédiaire. Ça peut être un médicament chimique ou autre. Après, ça peut être ce que le prophète alayhi salat wa sallam nous a donné comme enseignement. Et c'est le dernier point que le cheikh a développé, le miel, le habatou saouda, les choses qu'on connaît plus ou moins. Naam. Troisième point, an Allah ta'ala لم ينزل داء إلا وأنزل له شفاء. Pour chaque maladie qu'Allah a créée et envoyée sur terre, Allah a également créé son remède. Et le prophète alayhi salat wa salam dit, on va pas relier le même, en fait le titre c'était le hadith, je vais vers la conclusion, alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Hadith rapporté par Imam Ahmed ibn Hanbal dans son Musnad. qui a déjà porté un mousnad d'Imam Ahmed? Il faut une ceinture lombaire. Pour porter le mousnad d'Imam Ahmed, il faut une ceinture lombaire. Tellement le ilm d'Imam Ahmed ibn Hanbal, c'était ajib. Je l'ai à la maison. Et j'ai également le Fathul Bari qui est énorme, le commentaire de Bukhari Sharif. Mais le mousnad d'Imam Ahmed, c'est sans commentaire. C'est que les moutons, que les hadiths. Et c'est comme ça, subhanallah. Ajib, Allah a choisi des gens pour faire le khidmat de son dîn, c'est exceptionnel. On revient. Oui, alimahou man alimahou, comment traduit Hudhayfa? Ceux qui connaissent, ben ils connaissent, par la grâce d'Allah. Et ceux qui ne connaissent pas, ils ne connaissent pas. Ça veut dire qu'il se peut que dans une culture, dans un pays, dans une génération, il y a des gens qui connaissent le remède contre cette maladie et d'autres qui ne connaissent pas. Mais jamais ne dis pas que c'est un mal qui est incurable. Jamais dit que c'est un mal qui est incurable. D'accord? Après, je ne vous parle pas de quelque chose qui est cassé. Ou alors, la protège, quelqu'un s'est fait amputer d'un bras ou d'une jambe et tout, il dit, est-ce qu'il y a un remède? Non. Là, on comprend, on ne parle plus de maladie, là. D'accord? Là, on parle d'une atteinte de le corps. Ok? Mais quelles que soient les maladies, conviction qu'il y a son shifa quelque part. D'accord? Et en commentaire de ce hadith, sans être trop long, les savants disent, à travers ce hadith, nous voyons les vertus de l'étude de la médecine. Imam al-Shafi'i, rahimahullah. Tu es Shafi'i? Tu es Shafi'i? Imam al-Shafi'i, rahimahullah, dit que, après la connaissance religieuse, la science la plus profitable pour la Ummah, c'est la médecine. Donc, moi, j'encourage le maximum de jeunes. Soit ils font des études de ilm shar'i, ou alors des études de médecine. Après, ils peuvent faire autre chose. Mais là, on a vraiment les connaissances les plus profitables. Et je vois le tonton qui hoche la tête. Il dit, pourquoi pas fusionner les deux? Nourun ala nour. Ce qui est tout à fait possible. Une personne est venue me voir il y a quelques jours. Je ne vais pas être long. Me dit, voilà, je veux étudier. Je veux faire médecine, mais je veux faire médecine à Madina Sharif. J'ai dit, abshir. C'est quelque chose qui est maintenant possible. Depuis quelques années, maintenant, ça s'est diversifié. Ils ont construit d'autres bâtiments. On a les études islamiques. On peut faire médecin, on peut faire ingénieur. En fait, université ouverte sur toutes les connaissances. Et l'avantage, c'est qu'une personne peut étudier son cursus de médecine et en même temps apprendre la connaissance religieuse. Nourouna ala nour. Et prier dans la Masjid Nabawi. Alors là, franchement, c'est waouh. D'accord? Donc, la médecine, et moi, d'une façon, on va dire personnelle, j'ai énormément de respect et de considération pour tous les médecins, musulmans ou non musulmans. Ils ont étudié quelque chose, ils ont une connaissance qui nous est, subhanallah, profitable. Et ce qu'ils voient de leur cursus, de leurs études, ça doit réveiller le iman. La complexité d'une cellule, un chromosome, l'ADN, c'est quelque chose d'extraordinaire, ça. C'est, on en perd la tête, hein, si, pour le peu qu'on peut comprendre, hein, nous, à notre niveau. Mais on se dit que, et là, on voit, Qudratullah, la puissance d'Allah Azza wa Jalla, de la création, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement, et c'est fait pour dépasser la raison humaine. Bien, un bédouin. Fadja al-A'rabu, min ha-huna, wa ha-huna. Ah, c'est bédouin. Toujours désordonné. Toujours mal poli. Un bédouin est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait une fois un qui était venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un à qui le prophète avait, avec la tribu avec laquelle il avait emprunté de l'argent. Le prophète était assis là comme ça, avec le sahaba dans un majlis. Il est venu et il a pris le prophète par son manteau. Il a dit, oh prophète d'Allah, mon argent, quand tu me le rends? Alors que le délai n'était pas arrivé, il est venu avant. Peut-être qu'il ne connaissait pas bien la date ou autre chose, ce bédouin. Les sahabas disent qu'il y avait une trace rouge sur le cou du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les sahabas n'en pouvaient plus. Comment il ose faire ça? Le prophète dit, laisse-le. Personne ne bouge, khalas. Il a demandé à sahaba qui c'est qui peut réunir l'argent. Et ça c'était ajib, le khuluqun nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est, on va dire même en termes d'humilité, c'est quelque chose d'énorme. Des fois, nous, on a un petit peu, un petit grade. On aimerait être intouchable. On ne veut pas qu'on nous interpelle. On ne veut pas qu'on nous dise qu'on a eu tort ou que telle chose tu as dit, cher ou malin, c'était peut-être erroné. Non, rien. C'est grave. alors qu'on veut s'identifier au prophète alayhi salat wa salam, on doit apprendre en premier à, comment on dit l'humilité, at-tawadhu. Extrêmement important. Et le prophète salam était un modèle de tawadhu, d'humilité. Naam. Donc les bédouins, et Allah Rabbul Izzat dit le Coran à propos des bédouins, on est dans le juz 10 il me semble. Al-A'rabu أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. Les Arabes, les Bédouins, après le coup, les Bédouins problématiques. Cependant, quand les Bédouins venaient, les Sahaba étaient contents aussi. Pourquoi? Parce que les Bédouins, ils posaient des questions mais sans gêne. Alors que les Sahaba, ils avaient cette haya, cette pudeur. C'est également une pudeur, ça, de ne pas trop poser de questions. Je ne parle pas pour le frère, hein. C'est pas pour toi. C'est une pudeur aussi de ne pas trop interpeller, pas trop poser de questions. C'est de rester, de s'effacer un petit peu. D'accord? Et alors que les Bédouins, ben, ils sortent de loin. Je ne sais pas quel désir il arrive. Il arrive comme ça, il pose et il dit voilà, Mina, ça comme question. Voilà, question 1, question 2. Et là, les Sahaba, ils écoutaient et ça leur enrichissait sur le plan. Ilmi, le plan connaissance. Il y avait tout un adab, hein, chez les sahabes, un respect, un savoir-vivre. Subhanallah. Il est venu dire au prophète d'Allah, est-ce que dans l'islam, on a le droit de prendre un médicament? En pensant que non, le yaqin, conviction, c'est Allah qui donne la santé. Et là, Nabi alayhi salatu wassalam a dit, oui, car sache qu'Allah Rabbul Izzah n'a pas envoyé, ça rejoint les hadiths qu'on a dit, n'a pas envoyé de maladie sans qu'il n'ait envoyé son remède. Ah, il y a un ziyad, il y a quelque chose en plus. Ghayra da'in wahidin al-harami, avec un ha, pas avec un ha, al-harami. Allah a envoyé donc le remède pour tout à l'exception d'une seule chose, c'est la mort. Pour la mort, il n'y a pas de remède. Et pour la mort, il n'y a pas non plus d'explication scientifique. Aucun scientifique ne peut expliquer c'est quoi la mort. Ils essaient d'expliquer c'est quoi la vie, comment la vie se met en place, de le fœtus et ainsi de suite, mais ça tranquillou, on l'avait ça depuis 1500 années, ça on avait de le Coran. Ça fait partie des versets miraculeux où Allah explique le développement de l'embryon étape par étape. D'accord? Allez, on va dire que maintenant, avec les échographies 3D, on peut avoir une imagerie extraordinaire, une précision que, hein, Luqman, que tu vois même le bébé dans le ventre et quand il naît, tu vois déjà les traits ajib. Mais aucun médecin ne peut expliquer c'est quoi ar-ruh. Wa yas'alunaka 'anil ruh. Qul ar-ruhu min amri rabbi. C'est quelque chose qui appartient à Allah. Comment, c'est quoi la vie? Ça, c'est inexplicable, ça. On peut voir un mécanisme, une cellule qui se développe et tout, mais comment le cœur commence à battre? Pourquoi? Comment ça se fait que tout devient vivant d'un coup? Ça, scientifiquement, de un, il n'y a pas de réponse, d'explication, et de deux, on ne peut non plus le reproduire. On ne peut non plus le reproduire. Ben, pareil pour la mort. Les définitions de la mort, les scientifiques, c'est voilà. Quand c'est un problème de santé, on connaît. Maintenant, si on dit que la mort, c'est le cœur qui ne bat plus, un peu léger comme définition. Nous, la mort, on connaissait quoi? C'est l'ange de la mort qui vient, qui reprend le ruh. Et le ruh, c'est quelque chose qui est, on a une conviction, iman bil ghaib sur le ruh. Alors donc, oui. Et donc, on a dit qu'à l'exception de la mort, pour lequel il n'y a pas de remède ni de solutions. Et on avait vu le verset, non, on va voir ce verset de le tafsir de la sourate Al-Qiyama, quand la personne est dans l'agonie, waqila man raq, quand la personne ne sait plus quoi faire, on cherche quelqu'un qui peut trouver un remède pour soulager la personne. Alors, c'est qui dit ça? Alors que celui qui est en train de mourir, wa dhanna annahu al-firaq, lui il sait. Et vanna, qui veut dire penser, bima'na alima. Vanna peut avoir le sens de connaître. C'est-à-dire que la personne qui est dans al-ghar-ghara, qui est dans l'agonie, sait qu'il est en train de quitter ce monde. Et il sait que ça ne sert plus à rien de faire ses branchements, ses tuyaux, ça ne sert plus à rien. Mais quel moment terrible, hein, et effroyable, hein. que la personne est, ça peut être quelqu'un qui s'évanouit, on peut penser que c'est un malaise vagal, comme on dit, ou un problème de sucre, hypoglycémie, ou un truc comme ça. Mais non, non, non. Celui qui est tombé ou qui, il sait qu'il est en train de quitter ce dunia. Et là, ça défile. Là, ça défile. Là, ça pense. Là, ça réalise. Mais il est trop tard pour réaliser. Qu'Allah nous permet de réaliser au quotidien que nous avons un retour vers Allah et du coup de préparer ce retour vers Allah. Azza wa jal, na'am, hada. Et dernier point, et puis on va s'arrêter là pour ce soir. Et on gardera le dessert pour le prochain cours, Inch'Allah. Savoir que les dawas, les remèdes, il y a des remèdes réels, ça on va voir la prochaine fois, le miel, habad ou sauda, et ainsi de suite, mais le Coran est avant tout le remède. Pour les maladies, okay, les trois catégories, les maladies, on commence par spirituelles, les maladies physiques, mais également les maladies mentales, psychologiques, manque de stabilité, anxiété, et ainsi de suite. Le Coran est un remède pour tout ça. Je ne vais pas redévelopper, on a déjà parlé de ça lors du deuxième cours. Il y a un point que j'avais oublié. Al-Fakhru al-Razi, c'est l'auteur d'un tafsir qu'on citait beaucoup avant. On citait beaucoup avant le fameux tafsir al-Kabir. C'est un tafsir, mais on a arrêté de l'utiliser parce que c'était trop compliqué, trop complexe. C'est un niveau de commentaire, c'est... Voilà quoi, un verset, le cheikh nous ramène 10 pages. Et Al-Fakhru al-Razi, rahimahullah, dans l'introduction du tafsir, il écrit quelque chose concernant le Coran et la mémoire. Quelle est la maladie de nos jours qui est, qu'Allah le protège, très répandue? Alzheimer. Et ça fait peur. Beaucoup de gens ont peur d'Alzheimer. Je connais des personnes qui, voilà, s'ils oublient leur clé et tout, ils se disent, est-ce que c'est Alzheimer? On voit le docteur, est-ce que c'est... Non, c'est pas comme ça. Donc, ne pas non plus rentrer dans une psychose. Mais, effectivement, quand on voit des gens qui sont atteints d'Alzheimer, c'est comme le Coran le stipule, j'ai pas le verset en tête, que voilà, atteint un certain âge, c'est comme la personne revient en enfance. Allah nous protège. Qu'Allah nous accorde une mort dans At-Ta'a, de l'obéissance, et Ghayr Muhtaj, sans être dépendant de quiconque ni de quoi que ce soit, et avec notre izza, avec notre honneur, que nous ne soyons pas dans des situations comme ça. Et donc, je lisais récemment un article d'un médecin local, hein, un post Facebook, un médecin pour qui j'ai une grande admiration. Il disait que voilà, si on reste actif intellectuellement, on n'est pas atteint d'Alzheimer. Donc, il a dit, il faut faire des équations, il faut continuer à lire, à s'instruire, à apprendre et tout. Ce qui est tout à fait vrai. Hein. Pour ceux qui sont, avec respect, hein, ceux qui sont d'un certain âge, qui sont à la retraite, ben, je sais pas, nous, la retraite sera bientôt 75 ans, je sais pas, ça, si tous les 3 ans, ils rajoutent 2 ans. Il faut toujours garder une activité intellectuelle. Hein. Et justement, là où je voulais en venir, Al-Fakhru al-Razi, rahimahullah, il écrit dans le Muqaddima, dans l'introduction de son grand tafsir. Ça aussi, il faut 2 ceintures lombées pour le tafsir al-Kabir. Extraordinaire. Enfin, j'arrête pas de m'exclamer et d'admirer le travail que les grands savants ont fait et que nous reprenons des petites miettes et que nous distribuons les miettes. Et quand je vous donne des miettes, je suis le premier à en manger. Qu'Allah augmente notre ilm et nous pardonne malgré nos manquements, nos erreurs et tout ça. Théoriquement, on n'est pas digne de cette assemblée, ni moi, ni vous, mais Allah nous accepte et a pitié de nous et nous accorde les vertus d'une assemblée religieuse comme il accordait aux sahaba alors que le nôtre c'est Wallah Musta'an. Et donc, oui, il dit quoi Al-Fakhru al-Razi? Oui, Al-Fakhru al-Razi dit que le Hafidh al-Qur'an, celui qui mémorise le Qur'an et qui continue à le réviser tout le temps, même à un âge avancé, cette personne ne sera jamais atteinte de la maladie de l'oubli. Alors bien sûr, avant, à son époque, c'était, il n'y avait pas peut-être pas ce diagnostic d'Alzheimer, mais c'était quelque chose qui existait, parce que le Coran le dit, le prouve, que des gens qui reviennent en enfance, d'accord, à un certain âge. Donc il dit que celui qui est Hafidh al-Quran et qui fait ses révisions, qui révise tout le temps. 80, 92 ans, mashallah, avec son Coran, et combien de tcha-tcha qu'on a connu, Allahu Akbar, qui révisait jusqu'à leur mort. Sans citer le nom, entre celui qui s'asseyait là, celui qui lisait très fort là, près du poteau, Allah yarhamhum, wa yunawwir qabrahum, et que leur tombe soit un jardin du Jannah. Donc voilà, c'est le Coran, cette lumière-là, protège le cerveau de celui qui mémorise le Coran et que la personne ne sera jamais atteinte de d'Alzheimer. Qu'Allah Azza wa Jal accepte notre majlis, nous donne conviction sur ces quelques paroles. Je pense qu'on a plus fait un récapitulatif des dernières leçons. Et la prochaine fois, on ne va pas être très long. On va parler des remèdes hein, contre les maladies et tout, spirituelles, mais également légèrement, la médecine prophétique, principalement le miel, la habatou saouda et la hijama, surtout la hijama. Jazakumullah khair. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillah. Jazakumullah.